Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on vous accueille sur Radio Maria France pour parler un petit peu de, pour un peu connaître votre témoignage de vie. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, je suis l'abbé Jean-Pierre Roussel. Je suis prêtre depuis 2 ans. J'ai 48 ans et je suis prêtre à Dunkerque, le Grand Nord. Je suis prêtre, voilà, je suis vicaire. Je m'occupe actuellement de deux lycées, de certaines écoles. Et aussi, le séminaire m'avait demandé de passer le BAFD pour être directeur de camp parce que j'ai fait beaucoup de camps pour les jeunes. Alors, j'ai été au Congo, j'ai été aux Philippines, en Lituanie, j'étais un peu partout. Mais je n'avais pas été spécialement en France pour faire des camps. Alors, on m'avait demandé de passer les diplômes et aujourd'hui, je donne des coups de main pour les camps. Pour les camps ici dans le diocèse.
Voilà, parce que en France, il faut des diplômes pour tout, hein. C'est bien
Il
connu.
faut des diplômes, oui.
Oui. Alors, et Monsieur l'abbé, alors justement, si on revient avec vous en arrière, parce que vous dites que vous êtes prêtre depuis 2 ans, donc vous avez eu une vie avant.
Oui, et c'est pour moi surtout un chemin avec Jésus, c'est surtout une conversion. Je suis pas né dans une famille. Alors, on a été baptisé, on a été au catéchisme, mais après c'était tout. On n'était pas particulièrement pratiquant comme on le dit aujourd'hui. Et puis pour moi, ça a été à 12 ans, ça a été fini. J'ai plus entendu parler de Jésus pendant 5 ans. Et il s'est passé qu'à 17 ans, quand j'étais en terminale, il y a un camarade qui a témoigné que dimanche, il pouvait pas aller à la petite fête qui se prépare entre copains. Parce que, avec ses parents, il allait à la messe, il parlait de Jésus comme un ami, et il parlait de la foi comme ce qui était central, ce qui unissait sa famille. Et moi, j'avais 17 ans, et franchement, 5 ans après avoir fait le caté, il me restait plus grand-chose. Dieu était peut-être pour moi un étranger à ce moment-là. J'avais une inquiétude, c'est qu'on me demande, est-ce que je crois en Dieu? C'était devenu un peu un étranger. Et puis, on avait aussi en terminale la prof de philo qui avait commencé l'année en disant que la philo, alors c'est ce qu'elle disait, elle l'avait présenté comme ça, la philo avait commencé par la question de Dieu, par la question de la recherche sur la vérité, sur la question pour les Grecs du principe. Et elle disait, vous ne trouverez pas réponse à toutes ces questions, mais ce que j'espère, c'est que vous trouviez l'auteur qui vous corresponde. Et je trouvais que d'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, il y avait ce jeune qui était authentique et qui témoignait de sa foi. Et moi, j'avais une inquiétude. On me demande, et moi, est-ce que je crois en Dieu? J'aurais peut-être dit non, pour qu'on me foute un peu la paix. C'est une question qui est un peu intime, je pense, pour nous Français en tout cas. Mais je trouvais que c'était une question qui était tellement importante. J'avais 17 ans et je voulais pouvoir y répondre. Et donc, j'ai commencé à lire l'Évangile. J'ai commencé à chercher et je trouvais en fait que c'était génial. Je trouvais que si c'était vrai que Jésus était ressuscité, si c'était vrai que le paradis existait, et je disais alors ça en vaut la peine. Alors plus tard j'assumerai, alors plus tard oui j'irai à la messe, alors mais c'était plus tard. Et voilà, je suis resté comme ça pendant 3 ans. Voilà, j'avais 17 ans. Et puis quand j'ai eu 20 ans, dans ma famille, on était branchés plutôt sur le sport. Mon père est prof de sport. Et moi, j'avais aussi le ski. Donc en mois de juillet, je suis allé faire un stage de ski sur un glacier. Et le dernier jour, j'ai fait une chute. Et à l'endroit où j'étais, pour moi, c'est clair, j'ai juste eu le temps de dire c'est fini parce qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. C'était verglacé. J'étais en train de me rétaler. Et quand j'ai vu que tout était blanc, c'était la glace bleue, blanc, bleu. La vitesse de la chute, voilà, je me suis dit c'est fini. Et en me disant c'est fini, pour moi, ça voulait dire c'est fini ici sur Terre. Et maintenant, je vais auprès de Jésus et de Marie. Ils étaient là dans mon cœur, ils étaient là dans ma vie. Mais je vais vivre quelque chose de nouveau. Et dans la chute, pour moi, ça a été comme un temps de paix. J'avais cette paix, comme s'il y a un cocon qui m'avait protégé à la tête et au tronc. J'ai cassé les bras, j'ai cassé les jambes, j'ai cassé un ski aussi, pour vous dire un peu la violence du choc, mais quand la chute s'est arrêtée, j'étais content bien sûr d'être vivant, mais là j'ai compris que la vie était un cadeau. La vie était un cadeau, que je ne sais pas si demain je serai encore vivant, je ne sais pas si demain je pourrai encore m'occuper des choses importantes de ma vie. Et là c'était aussi par rapport à la foi. Si j'avais été devant Jésus, j'avais rien à lui présenter, j'avais pas de vie de prière, j'avais pas de relation particulière. Et c'est vraiment ce moment-là, pour moi, où j'ai commencé à prendre au sérieux je veux dire, ma vie, quoi. Le c'est fini, ça voulait dire ça commence au ciel. Pour moi, le ciel, il commençait à partir de ce moment-là. Et donc là, j'ai commencé à. J'ai été opéré, j'étais transporté, mais pour moi, ça a été un déclic, ouais, d'assumer aussi ma vie, d'assumer ma foi, d'assumer après tes études. Et puis après, la question de la vocation, elle va venir après. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça. Alors, c'est une rencontre avec Jésus. Parce que c'est pas parce que je commençais à prier que je l'ai rencontré, mais Dieu nous fait des petits clins d'œil. Alors, à un moment, je lis, quand j'étais en rééducation, je vous citais deux, trois petits exemples, mais qui pour moi étaient énormes. J'apprenais à prier, j'apprenais à le rencontrer, à lui parler dans la prière. Et à un moment, en lisant l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 16, je lis: Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un seau ou la mettre sous un lit. Et à ce moment-là, ma sœur, elle rentre dans ma chambre, parce qu'évidemment, j'étais à ce moment-là handicapé, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Elle rentre sans frapper et j'avais la Bible dans la main. Donc qu'est-ce que je fais? Je la cache sous les couvertures. Et ma sœur ressort, et en fait, après, je finis la phrase, et puis je comprenais que Jésus dit: si tu as un ami, si tu allumes une lampe pour la cacher sous le lit, et c'est en fait exactement ce que je venais de faire. Et en fait, le Seigneur était capable, je me rendais compte, de donner des signes à travers le quotidien, à travers les rencontres aussi. À un moment, je demandais à Jésus, mais fais que je ne sois pas seul. Les seuls avec qui je parlais de Dieu, c'était les témoins de Jéhovah qui venaient frapper à la porte, et je me rendais compte que ça ne collait pas avec ce que je lisais dans la Bible. Leur évangile était un gruyère, et je demande à Jésus, fais que je ne sois pas seul. Et j'attends pas une semaine, deux jeunes m'accostent dans la rue, et puis ils me disent, voilà, on est des scouts unitaires de France, si tu veux, tu nous rejoins. Je ne savais pas ce que c'était que le scoutisme, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un aumônier. Ils me le disent à la fin qu'un aumônier les rejoint, mais je les écoute parce que je vois que Jésus est gentil dans l'évangile. Mais voilà, petit à petit, là, je rentre dans l'église et Jésus ne m'a jamais lâché. Alors, 18 mois après mon accident, je suis retourné faire du ski, figurez-vous. Et puis, un moment que j'étais tout seul, alors le dimanche, je suis allé à la messe, le matin. Et puis, l'après-midi, je suis allé rejoindre les amis. Et un moment que j'étais tout seul dans la montagne, sur un remontée de pente, j'ai entendu. Alors, je ne sais plus à quoi je pensais, mais je repensais à ce moment-là, à l'homélie. Je repensais à ce que le prêtre disait de l'évangile. Et puis, j'ai entendu distinctement dans mon cœur Jésus qui me disait: Mais Jean-Pierre, veux-tu devenir ouvrier de la moisson? Et c'était la première fois, voilà, que la question de la vocation, pour moi, ça s'ouvrait. Pour moi, c'était pas pour moi, je m'imaginais pas. Mais voilà, je découvrais Jésus. Et puis, la flamme va commencer à s'allumer à ce moment-là. Alors, j'ai dit oui. Je savais que si Jésus me le demandait, c'était pas pour me rendre malheureux, mais ça va être un apprivoisement au fur et à mesure, comme cela, puis je vais continuer à découvrir l'Église
Oui, parce que
et
là,
puis à découvrir.
vous étiez encore assez jeune, monsieur l'abbé, hein, en parlant de ce...
À ce moment-là, j'avais 20 ans.
Oui.
Et puis, alors, je vais découvrir aussi les Journées mondiales de la jeunesse.
Oui.
Je vais aller à Paris. Je vais apprendre à chanter le Je vous salue Marie. Je vais apprendre à l'Esprit Saint aussi. On va me parler de l'Esprit Saint, de bien appeler l'Esprit Saint quand on prie. Et je vais faire une expérience le dernier soir, dans la nuit du samedi au dimanche. Je vais me dire, je vais prendre une demi-heure de prière. J'étais tout seul, plutôt dans le bois. On n'était pas à Longchamp. On était un peu reculé parce qu'il y avait trop de monde pour dormir. Et en fait, j'ai été brûlé cette nuit-là par l'Esprit Saint. J'ai prié toute la nuit. Et donc, apprendre à découvrir Dieu, c'était avant tout essentiel. Et puis, alors, aux Journées mondiales de la jeunesse, je vais rencontrer d'autres jeunes. Notamment des jeunes qui étaient en lien avec une communauté, Tibériade, en Belgique, qui fait des camps pour les jeunes et les familles, qui étaient missionnaires. Voilà. Et en fait, je vais alors faire une année d'abord de discernement, puis je vais rentrer dans la communauté. Et là, donc, je vais devenir missionnaire. Donc, c'est là que je vais aller dans une ONG aux Philippines, j'irai vivre un an au Congo, je vais aller en Lituanie, etc. On allait dans les paroisses pour faire des missions, on allait dans les écoles deux par deux pour témoigner. Et voilà, ça va être ma vie comme ça pendant plus de 10 ans, comme ça. Et jusqu'au moment où la communauté va grandir. Et l'Église demande alors de faire des constitutions aussi pour que des engagements aussi puissent se faire et être structurés. Là, Là, j'ai pas pu signer, j'ai pas pu adhérer tout complètement. Je sentais que c'était pas tout à fait pour moi. Alors là, c'est là que je suis rentré au séminaire. C'est pour ça qu'en fait, je suis prêtre que depuis 2 ans, en fait. C'est tout mon
Et oui,
parcours
parce que là,
depuis 2 ans.
vous parliez de cette communauté qui était une communauté nouvelle, hein.
Qui était une communauté nouvelle. Maintenant, les constitutions, je pense, doivent être acceptées. Mais voilà, ça a été aussi ma vie de En fait, l'idée, c'est d'annoncer l'évangile, parfois de partir 2 à 2, sans argent, sans logement, en pèlerinage, de mendier le pain, la nourriture, comme Jésus a envoyé les apôtres, de pouvoir être témoin aussi, comme cela. C'était essayer de vivre la fraîcheur de l'évangile, annoncer Jésus aussi tout cru, l'annoncer dans la simplicité et être des témoins. Et donc voilà, ça a été aussi. Pour moi, ça me marque. Mais aujourd'hui, je suis prêtre pour le diocèse et je suis donc à Dunkerque.
Et Monsieur l'abbé, est-ce que quand vous êtes entré au séminaire, après cette expérience en tant que missionnaire, est-ce que vous aviez déjà en vous l'intime conviction que la vocation, c'était la vocation de prêtre diocésain, ou est-ce que c'est venu au cours du temps,
Oui, dès le début, en fait,
dès le
dès le
début, oui.
début, même quand j'étais en communauté. Après, j'ai donné ma vie à Jésus dès le début. Après, tu te dis, c'est lui qui guide ta vie. Après, que je sois prêtre avant ou après ou pendant, c'était pas tellement mon problème, en fait. Mais oui, la question de la prêtrise, elle était dès le début, en fait.
Oui.
C'est vrai, pour moi.
Et Monsieur l'abbé, quelles ont été peut-être les figures aussi de saints éventuellement qui vous ont accompagné sur ce chemin important pour vous?
Alors moi, si vous me parlez de saint, je ne peux pas ne pas vous citer la Vierge Marie. Je pense qu'à Radio Maria, je pense que vous avez aussi Notre-Dame. Mais moi, déjà, si je suis chrétien aujourd'hui, et puis si je suis là, c'est parce que j'ai eu Marie qui m'a accompagné toute ma vie, depuis le début. En fait, quand je vous ai parlé des scouts, très vite, j'ai rencontré un dominicain qui s'appelait Hyacinthe. C'était son nom d'ordination. Je ne sais pas d'ailleurs s'il écoute et s'il se reconnaîtra, mais il avait parlé du chapelet. Je lui avais demandé c'était quoi ce qu'il avait autour de la taille, et il a parlé du chapelet. Et quand je commencerai à avoir dans ma vie le besoin de prier, de m'accrocher à Jésus, alors je ne savais pas du tout comment fonctionnait le chapelet. Il avait expliqué, et je vais aller chercher le mode d'emploi dans l'encyclopédie Larousse en 3 volumes. Enfin, bon, c'était un peu le bazar, mais voilà, je vais me tourner vers Dieu vraiment. Et c'est Marie qui viendra depuis le début me chercher. Et pour moi aussi, Medjugorje a été vraiment un lieu de grâce extraordinaire. Voilà, les grâces que j'ai reçues là-bas sont énormes, et c'est Marie qui m'accompagne. Maintenant, au niveau des saints, si vous voulez une spiritualité, pour les jeunes, j'aime beaucoup Don Bosco. Évidemment, les 3 règles de la sainteté de Don Bosco. Je crois que ça s'adresse aussi pour les adultes, mais la joie. La tristesse ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde d'être tout le temps joyeux, mais de donner un sourire, c'est tellement beau. On a besoin d'avoir des beaux sourires. Voilà, ça fait tellement de bien. Mais la joie, ça demande un dépassement, c'est donner du bonheur et de la joie. La joie. Ensuite, il dit faire ses devoirs, c'est adresser aux enfants, mais ça veut dire les devoirs, bien sûr, aussi pour l'école, pour les enfants, mais aussi pour Dieu. Faire sa prière, ne pas aller se coucher sans avoir fait. Voilà, sa rencontre avec le Seigneur, et puis la charité, faire tout le bien possible, même si cela te coûte. Alors ça, c'est pour les enfants, c'est évidemment très lumineux pour eux de pouvoir cheminer avec Jésus, et ça résume aussi tout l'évangile. Mais je dirais aussi la petite voix de Thérèse, pour moi, me touche aussi, me marque quand même très fort. Pour moi, Thérèse, elle a compris ce qu'il y a finalement. Alors, on peut pas dire qu'elle a compris ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, mais elle a, pour elle, elle a intégré vraiment dans la confiance que tout ce qui nous arrive, tout, peut contribuer à notre bien. Mais c'est à nous d'avoir confiance que Dieu s'en sert. Même elle a été rongée par des désirs d'être missionnaire, elle qui était dans son monastère. Et aujourd'hui, elle est patronne des missions. Mais c'est parce qu'elle a considéré que si Dieu mettait ses désirs en elle, c'était pas pour la frustrer, mais c'était pour les réaliser un jour. Et bien, la question que finalement, avec Thérèse, on pose, c'est est-ce qu'on veut être des saints? Si on veut être des saints à 50%, on l'aura. Si on veut être des saints à 100%, on l'aura. Mais voilà, qu'est-ce qui nous habite? Et c'est là qu'elle a, pour elle, c'est cette voie de la confiance. Dieu n'a que de l'amour à nous donner, il ne nous juge pas, il nous aime. Mais quand on le verra, ben elle, moi je dirai à Dieu, mais tu vois, je suis pauvre petite pécheresse, mais je sais que toi, tu serais le premier blessé qu'on soit séparé un seul instant, mais voilà, viens me consoler par un baiser. C'est un chemin de confiance, de croire que tout contribue à notre bien, et ça, Thérèse, je crois, elle l'a intégré.
Monsieur l'abbé, aujourd'hui, dans vos différentes missions qui sont les vôtres, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur en tant que prêtre diocésain aujourd'hui ?
Alors, disons que y a beaucoup de choses. Hein. Je dirais d'abord la prière. D'abord, tout repose sur la prière. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais découvrir dans mon chemin que j'ai des grands-parents du côté de mon père qui étaient très chrétiens. Je vais même recevoir en héritage le chapelet un chapelet qui a appartenu à la grand-mère de mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère priait pour moi, mon arrière-grand-mère priait pour moi, etc., etc. Et cette prière-là, même si moi je n'ai pas su de leur vivant qu'ils étaient particulièrement chrétiens et qu'ils allaient à la messe, eh ben cette prière, elle n'est pas perdue. Autant si Thérèse l'a cru et l'a vécu de la confiance. Ben moi, cette prière, si j'ai eu ce parcours-là, c'est parce qu'il y en a qui ont prié pour moi. Et c'est à moi maintenant aussi de vivre dans la prière, alors dans mon union avec Jésus, dans mon amitié avec lui. Donc la prière, on a prié pour moi, ben moi aussi de pouvoir prier pour les autres. Après, je dirais, j'ai une dimension avec les jeunes, j'organise des camps, je retourne au ski, figurez-vous, après mon accident de ski. On m'a demandé, et c'est un petit peu une ironie du sort ou de la providence, de réorganiser un camp pour les ados à la Clusaz. Et donc, ça, bien sûr, tout ça, c'est ma joie. Mais je dirais que je suis quand même tourné vers la mission, de me demander, mais comment faire pour annoncer Jésus ? Moi-même, j'ai été un jeune qui a cherché. Qui s'est posé des questions, à qui qu'on est venu aussi tendre la main pour qu'il rentre dans l'église, eh bien, je me rends compte que beaucoup de gens, quand ils vont dans nos églises, qu'est-ce qu'ils trouvent ? On trouve des papiers, des invitations à donner pour le denier de l'église. Et donc, ce que j'ai fait pour le premier confinement, c'est mes petites initiatives à moi, hein, mais c'est ce qu'on appellerait de l'évangélisation passive, mais j'ai fait 12 fiches. J'ai appelé ça les 12 façons de prier dans la tradition de l'Église, des feuilles à 4 recto verso, donc il y en a 12. Et les gens, quand ils rentrent dans l'Église, eh ben, ils voient ça. Donc s'ils veulent, ben, le chapelet, l'oraison, la lectio divina, même le chemin de croix, même la confession, ce sont des outils qui nous servent tout le temps. Même la messe, voilà, la louange, même ceux qui vont offrir des bougies, mais quel est le sens de la prière ? Et donc, la prière, les gens cherchent et ils ne savent pas prier. Ou encore des témoins. J'ai mis des exemples de témoins. On a besoin d'avoir des témoins vivants. Là, j'ai mis Neymar. Neymar qui affiche dans son t-shirt quand il enlève son maillot qu'il a mis un but 100% Jesus. Ça, les caméras ne le montrent pas. Mais voilà, il y a plein de témoins que l'on met. J'ai mis aussi les 17 apparitions mariales reconnues par l'Église, puisqu'on a une église ici où on a un corsaire, beaucoup de gens viennent en pèlerinage pour voir Jean-Bart.
Jean-Bart,
à côté,
oui.
À côté, on a la statue de Marie, donc j'ai mis, si vous voulez, 17 présentoirs où on explique les 17 apparitions reconnues par l'Église actuellement. Donc j'ai fait un travail pendant les confinements pour montrer que notre foi, elle est vivante. Même les miracles de Jésus, Saint Jean en relate 7. Moi, j'ai mis les 7 signes de Jésus, et puis j'en ai mis 7 plus proches de nous, que ce soit l'Anciano, que ce soit ce que Marie a fait à Fatima, que ce soit le poncho de Juan Diego. Voilà, notre foi, elle est vivante, et on a besoin de ça, on a besoin de réapprendre à prier, on a besoin de donner tout ça, mais, et c'est peut-être une intention de prière que je vous laisse peut-être, si on doit se quitter maintenant, mais c'est de prier pour le congrès mission, parce que je trouve que c'est merveilleux, on a aussi besoin d'annoncer notre foi de manière explicite, comme au moins on me l'a fait. Alors c'est à Paris, mais maintenant on l'aura aussi à Lille cette année, et je vous invite à prier pour ça, parce que on a besoin, nous chrétiens, d'annoncer notre foi, on a besoin d'avoir des témoins, c'est une urgence humanitaire d'annoncer notre foi, autant il y en a qui meurent de faim, mais on meurt surtout de faim de l'amour de Dieu, et voilà, que nous chrétiens, on puisse annoncer cette foi, si vous me demandiez ce qui me tient à cœur, ben c'est compris aussi pour la mission.
Voilà, on va demander donc à tous les auditeurs qui nous écoutent de bien prier pour cette mission, congrès mission. Merci en tout cas, merci beaucoup Monsieur l'Abbé pour votre témoignage, pour ce temps de partage avec les auditeurs de Radio Maria France.
Merci pour votre invitation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir Monsieur l'Abbé.